Vous écoutez France Culture.
Sous les traits d'un Jules César vieillissant, Rome vient de surgir une fois encore des eaux sombres du Rhône. Cette découverte réalisée en Arles par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines s'accompagne de tout un ensemble de sculptures monumentales, de marbre et de bronze, mais illustre surtout à merveille la puissance de Rome, première partie de notre émission. En effet, depuis le 26 janvier, Venise et le Palazzo Grassi présentent Rome et les barbares, exposition événement, accompagnée de quelques 1700 objets issus de fouilles et de grandes collections. Pour découvrir la toute-puissance de l'Empire, mais aussi ses pulsations, son éventuelle décadence, son collapse ou effondrement, pour reprendre le mot de Dried Diamond, deux invités. Tout d'abord, le commissaire général de l'exposition, Jean-Jacques Ayagon, président de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Et un habitué du Salon Noir, Patrick Perrin, directeur du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, spécialiste du haut Moyen-Âge. Patrick Perrin, bonjour.
Bonjour.
Au-delà de la force, comment Rome a-t-elle pu agréger progressivement tous ces peuples vaincus au sein de l'Empire ? Jean-Jacques Ayagon ?
Elle l'a fait, Rome l'a fait par intérêt, parce que pour gouverner, pour tenir tout simplement un ensemble aussi vaste, on ne pouvait pas le faire dans l'hostilité permanente des populations rassemblées. Et d'autre part, elle l'a fait avec un très grand pragmatisme, mettant finalement peu d'idéologie à ce rassemblement de peuples divers, leur demandant tout simplement de respecter la nouvelle autorité qui s'établissait. Et pour le reste, notamment pour les religions, Rome était capable de pratiquer une certaine tolérance.
Peut-être aussi, et même probablement, par la vie en cité, la création de la ville.
Bon, sans doute, je crois que l'une des grandes caractéristiques de l'Empire romain, c'est que c'est un empire de cités, de villes. Rome développe une formidable civilisation urbaine et on voit d'un bout à l'autre de l'Empire, de l'Afrique à la Germanie, de la Gaule au Proche-Orient, des villes construites sur le même modèle se développer avec le même type de monuments, les mêmes lieux civiques, les mêmes lieux religieux. La même pratique des inscriptions de façon à galvaniser l'attachement des citoyens et des peuples à l'Empire. C'est un véritable savoir-faire. Ces villes étant reliées par un réseau viaire tout à fait exceptionnel. C'est comme ça que Rome a tenu un ensemble territorial aussi vaste à une époque où il n'y avait pas de chemin de fer, pas d'avion, pas de téléphone, pas de fax, rien de tout ça. Il fallait donc tenir en quadrillant l'espace et le territoire de la façon la plus étroite possible.
Patrick Perrin.
Ces peuples qui ont été soumis ont formé le futur empire. Ceux dont il est question ici, ils sont pour l'instant encore en dehors de l'empire. Hein. Ce sont notamment les Germains, mais pas seulement. C'est la suite.
Alors pour illustrer cette toute-puissance, quelques exceptionnels objets viennent d'être découverts et sont déjà présentés à Venise. Le premier ensemble est bien sûr cette série d'emblèmes impériaux découverts sur le Palatin, une découverte absolument unique.
C'est une découverte récente dont Patrick parlera de façon beaucoup plus savante que moi, sans doute. En tout cas, ces objets sont dits être les attributs, les insignes du pouvoir de l'empereur Maxence, donc de celui qui a été battu par Constantin à la fameuse bataille du pont Milvius. Alors on peut faire du roman historique et s'imaginer que les partisans de Maxence, constatant la défaite de leur empereur et souhaitaient soustraire ces emblèmes de l'Empire au vainqueur, à Constantin. C'est peut-être le même type d'emblème qui, plus tard, à la fin du IVe siècle, seront renvoyés à Constantinople par un barbare, par Odoacre, marquant par là qu'il n'y avait plus d'empereur à Rome, mais que le seul empereur qui subsistait, c'était celui de Constantinople. Ce sont des insignes du pouvoir, des régalias.
Patrick Perrin, vous les avez vus, puisque vous avez bien sûr vu l'exposition. Il s'agit de sortes de sceptres avec des sphères de verre, voire des globes de chalcédoine.
Ce sont des objets extraordinaires. Je ne suis absolument pas spécialiste de la question. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité exceptionnelle de ces objets, mais mélangeant le bronze doré, le verre, mais aussi le fer, et également l'importance de lances très très lourdes. Et la symbolique de la lance va continuer bien après la chute de Rome.
Depuis Auguste, les empereurs diffusent leur effigie, ça c'est une chose qui est sûre. Une deuxième découverte que vous présentez aussi dans cette exposition de Venise est ce pied gigantesque dégagé dans une fouille de Clermont-Ferrand cette fois-ci.
Oui, il s'agit d'une fouille préventive, il s'agit de l'excavation qui a été faite pour la construction de la bibliothèque municipale à vocation régionale de Clermont-Ferrand-Auvergne. Il s'agit du pied en bronze d'une statue monumentale. Alors, on ne sait pas très bien s'il s'agissait d'une statue, d'une représentation d'un empereur ou d'une divinité de type Jupiter, d'une divinité triomphante. Donc, en tout cas, ce pied monumental atteste de la diffusion de la culture urbaine romaine à travers tout l'Empire, de la diffusion également des modèles religieux et peut-être de la diffusion du culte de l'empereur, qui était un culte très, très formel, un culte qu'on pourrait qualifier de civique, mais à travers lequel les gens se reconnaissaient comme appartenant à la même société, au même empire, au même monde.
De fait, le barbare émerge dès les premières sources textuelles, grecques et romaines, bien sûr, bien avant ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, reste à savoir ce qu'est réellement un barbare.
Un barbare, c'est pour les Grecs et pour les Romains, disons, pour simplifier, c'est l'autre, celui qui ne partage pas justement l'empire ou la cité pour les Grecs, la langue, ou dont la langue est incompréhensible, dont la relation avec le territoire n'est pas le même que celui des Romains. Les Romains ont une vision organisée du territoire. Et c'est un territoire sur lequel s'exerce une autorité, une loi, un droit, une puissance. Pour ces Romains, les barbares étaient des gens qui avaient une réalité plus flottante dans le territoire, pratiquant des cultes qui n'étaient pas les leurs, des langues qu'ils ne comprenaient que mal ou qu'imparfaitement. Donc c'est l'autre, en quelque sorte. Ce mot, qui, je l'imagine au départ, était un peu technique, a fini par devenir un mot péjoratif et par être accoutré, en effet, de signification négative. Signification négative que le mot a gardée dans notre langue. Et si on s'est aussi peu reconnu dans les barbares, c'est sans doute parce que le mot barbare n'était pas devenu un mot très, très gratifiant. Qui oserait se dire le descendant ou l'héritier de barbares, alors que se dire l'héritier des Romains ou des Grecs, naturellement, c'est extrêmement valorisant.
Jean-Jacques Ayagon, toujours est-il que Tacite disait que le barbare était un être exemplaire, hein, malgré tout.
Tacite avait un problème avec Rome et donc il essayait de trouver chez ces peuples de la Germanie des vertus qu'à ses yeux les Romains avaient perdues. C'est la raison pour laquelle Tacite fait une description finalement assez tolérable, assez sympathique, assez positive même du monde des Germains. Mais pour le Romain banal, le Romain courant, les barbares, c'était quand même plutôt des gens dont on avait peur, dont on redoutait tout, et en tout cas qu'on ne reconnaissait pas comme étant des hommes avec un grand H tout à fait convenable.
Patrick Perrin, vous travaillez, vous, sur les barbares ?
Oui, j'adore. Disons qu'à partir du IIIe siècle, il y a de nombreux barbares dans l'Empire. Toutes les frontières étaient perméables et surtout, Rome recrutait à tour de bras des mercenaires. Donc le contact romain-barbare remonte vraiment vers ce IIIe, IVe siècle et avec des populations qui se sont rapidement acculturées. On a leurs traces archéologiques parfois au début, mais très vite elles se perdent, comme par exemple pour le nord de la Gaule au Ve siècle, où tous ces groupes militaires qui servaient dans l'armée romaine, soit sur les frontières, soit dans les postes de contrôle de l'intérieur, n'apparaissent plus archéologiquement. Il faudra attendre la vague suivante, je dis vague, c'est même un mot trop fort, la migration assez lente des Francs, pour qu'à nouveau on retrouve des traces archéologiques de ces barbares. Mais les barbares, je dirais, proches des frontières des limesses, du Rhin et du Danube ou des déserts d'Afrique ou d'Asie, ces barbares étaient en quelque sorte apprivoisés, bien connus, ils vivaient dans le monde romain. Les barbares les plus inquiétants, c'est ceux qui étaient en dehors de l'Empire, pas sur la rive gauche du Danube ou la rive droite du Rhin, ceux-là commerçaient, traversaient le fleuve, mais c'est ceux qui étaient dans le Grand Nord, par exemple les Saxons, même les Frisons, ou encore plus loin les Thuringiens, les Gépides, les Lombards avant qu'ils glissent en Pannonie. Donc le contact s'effectue quand ces groupes glissent vers les frontières romaines. Et le problème n'est pas seulement en Europe, hein, il est en Asie, il est en Afrique.
On peut dire aussi qu'il n'y a pas un seul modèle dans ce monde barbare. On a des noblesses, mais on a aussi des systèmes tribaux, etc. etc.
D'abord, on n'a pas beaucoup de sources.
Et puis on a des sédentaires, on a des nomades,
voilà, il y a absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, les Germains, dont il est beaucoup question en Europe, ce sont des sédentaires qui, habituellement, vivent paisiblement dans leur village. Ils ne se mettent en mouvement que quand il y a des circonstances telles que l'arrivée d'autres groupes. Alors ces groupes, effectivement, il y a des Asiatiques, comme par exemple les Huns, il y aura plus tard les Magyars, les Hongrois, mais il y a aussi des Iranophones, comme les Alains et les Sarmates, donc qui arriveront jusqu'en Europe occidentale. Il y a également les Avars qui font irruption également de la steppe dans le bassin du Danube vers au VIe siècle. Mais majoritairement pour l'Europe, ce sont des Germains qui sont au contact des Celtes depuis fort longtemps.
Une chose est sûre, Rome est aussi barbarisée. Un exemple peut-être, puisqu'à partir du IIIe siècle, les armées sont aussi étrangères. Jean-Jacques Ayagon, Patrick Perrin.
Les Romains sont barbarisés du fait notamment de l'intégration de contingents barbares dans leurs armées, jusqu'à l'intégration de populations entières, les populations fédérées, mais les barbares se romanisent également. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la richesse, par exemple, du matériel romain retrouvé dans les tombes germaines de l'Allemagne du Nord, ce qui montre bien que le modèle de civilisation de Rome éblouissait ces gens qu'on aurait pu croire tout simplement être les ennemis de Rome. En fait, Rome avait conquis par ses productions ces peuples qui pourtant étaient étrangers apparemment à sa culture.
Et dans votre exposition, donc ce qui est très important, très intéressant, c'est de voir ces ensembles archéologiques qui viennent d'Allemagne du Nord, qui viennent de Pologne. La Pologne est un réservoir d'objets de haute qualité du Haut Empire romain, et donc qui prouve bien ses contacts. Alors soit ce sont des échanges, soit tout simplement déjà des militaires qui ont servi dans l'armée romaine et qui après retournent au pays et ne restent pas sur place. Et c'est une des parties, une section très très intéressante de l'exposition qui au passage rassemble, comme vous l'avez dit Vincent, des objets d'art totalement exceptionnel. Je crois qu'on n'a jamais réuni, monsieur le ministre, une collection aussi importante. Mais ce qui est très important, c'est qu'à côté de ces objets d'art, il y a des ensembles archéologiques qui sont extrêmement nombreux. Et donc, on va découvrir, justement, par exemple, pour l'Italie ostrogothique et lombarde, pour l'Espagne visigothique, des ensembles complets de tombes d'hommes, de tombes de femmes, puisqu'il y a beaucoup de matériel funéraire. Les objets dans les habitats sont souvent cassés, dépareillés. Alors là, on a des pièces totalement exceptionnelles, qui permettent d'évoquer un peu la culture matérielle de ces barbares qui sont dans le monde romain, et essentiellement par la parure féminine. Ce qui différencie un groupe barbare d'un autre, ce sont, pendant quelques générations, le costume féminin.
Alors ces bijoux, ce sont par exemple des bijoux d'or cloisonnés avec des grenats, c'est une chose
très à la mode à cette époque. Oui, pour les 5e, 6e siècle, il y a beaucoup d'objets effectivement en or cloisonné de grenats qui viennent d'Inde ou du Sri Lanka, mais il y a également beaucoup d'objets qui sont moulés en argent doré, il y a de la vaisselle de bronze, Mais effectivement, c'est la parure cloisonnée qui est peut-être l'aspect le plus original pour la période.
On peut peut-être aussi même parler d'osmose entre barbares et romains, à en voir par exemple la tombe de Childéric, le père de Clovis, qui allie un matériel assez hétéroclite.
Allez-y, Patrick.
Merci. C'est pas hétéroclite, simplement. Childéric, comme peut-être son père, est administrateur pour le comte de Rome, de la Belgique seconde, cette grande province qui va de Reims à la mer. Et donc, il sait commander en latin, certainement. Il sait gérer des finances. Il sait contrôler le territoire. Il sait même faire la guerre aux côtés des Romains, aux côtés de notamment d'Agivius et de Siagrius sur la Loire contre les Visigoths et les Saxons. Et quand, on ne saura jamais comment il est dans la vie quotidienne, sauf que certainement vivant en ville dans un palais et non pas dans une hutte à faire son petit brasero et son barbecue, et que quand il se fait enterrer, il a à la fois des insignes de romanité absolue, cette grande fibule cruciforme en or qui est sans doute un cadeau impérial ou au moins du maître de la milice des Gaules, une bague sigillaire qui prouve que il scelle les documents, un manteau apparemment de pourpre, mais également des objets typiques pour un chef franc. Épée, scramassac, sauf que ces armes sont décorées de motifs cloisonnés en or exceptionnel. Un bracelet en or massif fixé à jamais à son poignet, qui était le signe de la royauté germanique. On connaît un certain nombre de chefs barbares, mais anonymes, le long des limèses du Rhin et du Danube. Et puis, comme tout bon guerrier franc, Saint Francis, grâce à l'âge de jet, une lance. Et vraiment et une volonté. Et bien sûr, tous les chevaux, puisque les funérailles ont semblé être ordonnées par, on peut le supposer, par sa femme, la reine Basine, qu'il avait enlevé à son mari, le roi Bizin, qui était roi de Thuringe, quand il était en exil au début de son règne. Et il est probable qu'une partie des objets, il les a rapportés de ce voyage lointain, et que ces funérailles, là pour le coup, extrêmement une pompe funèbre, vraiment très barbare, c'est une inspiration thuringienne et pas du tout classique pour l'Occident franco ou germano-romain.
On parlait d'osmose, mais donc on peut parler aussi par la même occasion d'acculturation.
Mais Clovis, par exemple, j'ai toujours à mes étudiants que Clovis, quand il était petit, il a sauté sur les genoux de Sainte-Geneviève. Childéric connaissent très bien Saint-Remy, Sainte-Geneviève, comme Clovis. Donc, ce sont des personnes qui vivaient vraiment certainement à la romaine, mais qui conservaient un bilinguisme, c'est sûr, qui avaient des traditions. Childéric était païen. Or, il est enterré à Tournai, sous un tumulus, en face de la cathédrale. L'évêque de Tournai a peut-être même assisté aux funérailles de Childéric, parce que tous ces insignes ne sont pas des insignes de paganisme, mais ce sont des pratiques à caractère essentiellement social, aristocratique. Donc l'Église, par exemple, ne s'est pas opposée à des enterrements dans le sol des églises de personnages enterrés avec leurs armes ou des femmes avec leurs bijoux. Ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose de social. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on fait des interprétations dangereuses.
406-476 et notamment le 28 août 476 sont des dates charnières. Quoi qu'il en soit, comment se formeront les royaumes barbares des 5e, 7e siècle en Europe ?
Tout d'abord, je crois que Jean-Jacques Aragon. On parle parfois de la fin de l'Empire romain d'Occident en 476. Je pense qu'Odoacre, en renvoyant des insignes de l'empereur à Constantinople, n'avait pas le sentiment de mettre fin à l'Empire en Occident. C'était pour lui une façon de dire qu'il n'y avait désormais plus qu'un seul empereur et que l'empereur était à Constantinople. Mais en réalité, naturellement, l'absence d'un empereur à Rome ou dans une autre des métropoles de l'Occident, à Ravenne par exemple, signifie de fait que le territoire de l'Occident est progressivement livré à la responsabilité de gouvernement, à la responsabilité politique réelle de notables, de rois, appelons-les des rois, qui progressivement installent sur le territoire de l'Europe une nouvelle forme d'organisation du territoire, dont découle d'ailleurs en grande partie la carte politique de de l'Europe actuelle. On peut dire, bon, sans être totalement exact, naturellement, mais sans être, sans être par ailleurs totalement inexact, que la France, c'est un peu finalement l'héritage du royaume des Francs, que l'Italie sort du royaume d'abord des Ostrogoths, des Lombards ensuite, que l'Espagne sort du royaume des Visigoths. Donc on voit en quelque sorte les futures nations d'Europe s'identifier à travers ces royaumes, mais qui conservent d'ailleurs des traits, des marques de l'Empire que les uns et les autres estiment ne pas être éteint. Beaucoup de rois barbares, francs ou ostrogoths, continuent à pratiquer des formes d'hommage au moins rhétoriques à l'égard de l'empereur de Constantinople. Et Patrick Perrin vient d'évoquer la sépulture de Childéric à Tournai. On a également retrouvé dans la tombe de Childéric une monnaie en or de l'empereur Zénon, ce qui marque bien que ces rois barbares estimaient être un peu les fondés de pouvoir d'un empire qui s'était un peu affaibli.
Tous ces barbares francs ou autres, d'ailleurs, ne deviennent-ils pas les meilleurs remparts non plus d'un empire déchu, mais de la chrétienté ?
Il est sûr que c'est un peu compliqué parce que les barbares dans l'Empire étaient majoritairement déjà chrétiens quand ils arrivent, mais ariens, comme les Goths, comme les Burgondes. Mais les Francs, les Saxons, les Allemands étaient païens. Donc ce qui va se passer, c'est quand la conversion de Clovis est réalisée, sans doute en 508 et pas en 496, la minorité franque de Gaulle devient catholique. Et donc le seul royaume catholique d'Occident, barbare, face à Byzance, c'est celui des Francs. Et on va s'apercevoir très très vite effectivement qu'à l'image de Clovis construisant la basilique des saints apôtres comme celle de Constantin à Constantinople, eh bien l'aristocratie va fonder des églises funéraires, voire des cathédrales comme les fils de Clovis, des grandes basiliques, des monastères comme les fils de Clovis. Et donc il va y avoir un modèle aristocratique franc pour la diffusion du catholicisme, avec notamment la fondation de très nombreux monastères. Il faut penser que au 5e siècle, il y a même pas une dizaine de monastères en Gaule, et que à la fin du 7e siècle, il y a plus de 600 monastères qui pratiquement tous ont été fondés par des aristocrates de francs.
Des princes, des princesses,
comme les reines, la fameuse, les veuves. Le fameux monastère de Chelles avec la tunique de la reine Bathilde.
Quoi qu'il en soit, les invasions barbares jusqu'aux tardifs vikings se résument-elles à une soudaine ruée sauvage ?
Écoutez, je pense que tous les experts s'accordent à dire qu'il n'y a pas eu de ruée au sens mécanique du terme, une sorte de déferlement auquel les Romains n'auraient pas pu physiquement résister. Ce mouvement, c'est en fait une séculaire et longue et lente instillation de populations, de familles, parfois tout simplement, de gens venus du nord, venus de l'est, dans le tissu économique, dans le tissu militaire, dans le tissu humain de l'Empire romain. Alors que ce mouvement est connu à certains moments des expressions un peu moins aimables, plus violentes, c'est certain. Cette histoire, ces siècles sont marqués également par des rencontres belliqueuses, des rencontres violentes. Mais en fait, c'est un mouvement de longue durée et dont nous mesurons aujourd'hui encore dans l'organisation de l'Europe les conséquences. La carte linguistique de l'Europe est le témoin de cette stabilisation entre l'influence des mondes romanisés, des mondes germains et des mondes slaves, par exemple.
Patrick Perrin, il y a d'abord peu de destruction de villas romaines tardives.
Oui, on n'a pas
beaucoup
de
preuves, mais dans le nord de la Gaule.
Ces barbares, vus de Jérusalem par Saint Jérôme en 406, ils affolent les gens qui sont loin. Alors c'est vrai qu'en 406, le raid des Suèves, des Alains, certainement, ça n'a plus d'être rose tous les jours. Il y a eu des destructions à coup sûr. Elles n'apparaissent pas archéologiquement. Mais en fait, il faut considérer que numériquement, ceux qui arrivent sont peu nombreux. Donc ils sont quelques dizaines de milliers parfois, moins de 100 000 certainement pour, par exemple, les Vandales en Afrique ou les Visigoths en Gaule, en Espagne. Et donc, ils se trouvent face à des populations majoritaires de plusieurs millions d'habitants. Donc, ils sont obligés de s'acculturer. Donc, c'est un système forme de putsch successif, en quelque sorte. Et ceux qui ne s'acculteront pas, comme les Vandales en Afrique ou les Ostrogoths en Italie, seront éliminés. Ceux qui s'assimilent très facilement, comme les Francs ou les Visigoths, s'il n'y a pas eu l'arrivée en 711 des Arabes en Espagne, il est probable que la dynastie visigothique se serait prolongée aussi longuement que celle des Francs. Alors le problème, mais là on n'a pas le temps d'en parler, chez les anglo-saxons, c'est toute une autre histoire. Il ne peut pas traiter tout d'un seul coup.
Cette Europe qui revendique depuis toujours ses racines grecques, romaines, judéo-chrétiennes, cette Europe, qu'en est-il de ses origines barbares? N'ont-elles pas été niées, plutôt même qu'oubliées?
Elles ont été refoulées très très largement, alors de façon plus ou moins égale selon les pays d'Europe. Il est évident que l'Allemagne ou les pays de l'Europe du Nord ont plus facilement confessé leur origine germaine. Mais le cas de la France est très intéressant parce que la France s'est voulue culturellement gallo-romaine. Elle s'est voulue un peu gauloise à partir du Second Empire, mais essentiellement gallo-romaine. Et certains théoriciens de la République, à la fin du XIXe siècle, prétendaient même que l'épisode France était finalement le mariage des Germains, des Allemands, donc, et des prêtres, hein, pour la domination des bons républicains gallo-romains. Donc nous avons un problème avec nos racines barbares. C'est vrai que nous avons confessé, quand on parle, les débats sur les racines culturelles de l'Europe font allusion aux racines grecques, aux racines romaines, aux racines judéo-chrétiennes, aux racines qui puisent dans l'esprit du siècle des Lumières. Mais on oublie toujours de mentionner nos racines barbares qui sont pourtant profondes et qui sont déterminantes. Nous sommes les uns et les autres autant les descendants des Francs, des Alamans, des Burgondes, des Normands et donc des Vikings que des Romains et des Grecs. Mais nous nous sommes forgés une identité culturelle volontaire.
Patrick Perrin, depuis le Teutonburg, la germanité victorieuse, oui, qu'en est-il exactement du côté justement de la Germanie et au-delà des pays scandinaves et slaves?
Mais je dirais que, actuellement, pour poursuivre ce que vous avez dit, que les Francs en particulier ont réussi à un tour de force, c'est-à-dire à créer véritablement, préalablement, une sorte de nation, une France avant la lettre, même si le mot France est beaucoup trop tôt. Et c'est vraiment dû à un métissage très rapide et au respect, malgré tout, donc des structures préexistantes. On sait que le vice n'applique pas, ne crée pas un code théodosien, un abrégé comme les autres rois barbares, parce que tout simplement on utilise en Gaule encore, en Gaule du Nord, le code théodosien. Donc il y a vraiment une poursuite de la civilisation antique, très évidente jusqu'au VIe siècle, et après vraiment 7e, 8e siècle, monsieur le ministre, je crois qu'on commence à basculer vers un proto-Moyen-Âge.
Une chose est sûre, cette exposition est aussi un formidable coup de projecteur sur deux périodes longtemps délaissées par les archéologues, l'Antiquité tardive, dont les niveaux étaient rasés pour découvrir la Rome classique, et puis le Haut Moyen-Âge, où il y a encore peu, on imaginait, les Mérovingiens vivant dans des sarcophages. Donc je rappelle le titre de cette exposition événement, Rome et les barbares, bien sûr au Palazzo Grassi, à Venise. Jean-Jacques Eliagon, Patrick Perrin, merci beaucoup. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à l'Arabie Saoudite et à l'antique Hégra des Nabatéens. Le Salon Noir a été réalisé par Brigitte Alléo, à la technique Ariane Herbé. Le Salon Noir, une coproduction France Culture, sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie Arquetis du ministère de la Culture. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain à 14h, où vous pourrez retrouver Science et Conscience de Philippe Petit. Mais dans quelques instants, à 15h, à plus d'un titre, par Toufik Hakem et Jacques Munier.